à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau cours de la Microsoft Virtual Academy. Donc, je suis avec Pascal.
Bonjour Stan.
Et puis ensemble, aujourd'hui, nous allons vous faire une introduction aux containers qui sont donc effectivement un terme assez nouveau. Donc, l'agenda de cette prochaine session qui va durer quelques dizaines de minutes, c'est un déjà de définir ensemble ce qu'on entend par container. Ou container en anglais ou en franglais, si on parle rapidement. On parlera ensuite de container Linux, on parlera de container Windows, et puis on terminera gentiment en synthèse.
Donc, Stan, qu'est-ce que c'est qu'un container ?
Eh oui, qu'est-ce que c'est qu'un container ? Alors, c'est un terme qui aujourd'hui est clairement à la mode dans tous les milieux autorisés. Et si je devais faire un parallèle, je dirais que le côté un peu hype du conteneur ou le vif intérêt qu'il produit aujourd'hui est à peu près équivalent au vif intérêt qu'on pouvait avoir sur la virtualisation de machines en 2001-2002 à peu près. C'est-à-dire que, je me rappelle à l'époque, en fin 2000, début 2001, on utilisait des logiciels de virtualisation de machines comme VMware. Et effectivement, c'était tout nouveau comme concept et pas mal de gens se disaient « mais du coup, on fait tourner une machine sur une machine ». Et ça a mis du temps finalement un petit peu à ce que le concept soit adopté et bien compris par tout le monde. Et puis ça a mis pas mal de temps également avant d'arriver réellement dans les productions. On est passé par une phase entre guillemets intermédiaire où c'était utilisé pour du test and dev beaucoup dans des environnements de pré-production avant d'être sûr que finalement la techno soit assez mature pour être exploitée à 100% en production. Je pense que sur les containers, on est à peu près sur cet état-là, sauf que l'accélération des technologies du marché fait que ça prendra peut-être pas autant de temps que ça a pris à la virtualisation pour arriver en production au niveau des containers. Donc les containers sont également une technologie de virtualisation quelque part. On pourrait parler de virtualisation d'OS. Donc l'objectif, effectivement, est de faire percevoir à une applicatif un environnement, la perception qu'elle est dans un environnement qui lui est dédié. C'est-à-dire l'application va croire qu'elle est sur son OS à elle avec ses librairies, et puis les fonctionnalités du système d'exploitation sous-jacente.
Alors qu'en virtualisation classique, on parle de virtualisation de machines.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on virtualise les composants classiques du type CPU, mémoire,
exactement.
Disque, réseau.
Et là, c'est le système d'exploitation qui a la perception d'être sur sa machine physique à lui et dédiée. Donc là, on est dans la virtualisation d'OS, où là, c'est l'application, donc on monte plus haut dans les couches, clairement applicative, et c'est l'application en fait qui va avoir la perception d'être sur son système d'exploitation dédié. Ce qui ne sera pas le cas, parce que le système d'exploitation sous-jacent sera en fait mutualisé avec d'autres applications dans d'autres conteneurs. Donc on est vraiment sur un package qui est déclaratif, et on peut parler du conteneur, et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui est réellement excité par les conteneurs, comme d'une unité de déploiement universelle, dans le sens en fait où ces conteneurs vont pouvoir être déplaçables entre infrastructures, entre cloud, entre machines. On pourra avoir un conteneur qui tourne sur une machine d'un développeur, et qui ensuite sera par exemple testé en pré-production sur un serveur, et puis déployé en production sur une solution de cloud computing public par exemple comme Azure. Et du coup, on comprend que c'est quelque chose qui est le fait d'avoir cette sorte de mobilité de l'application, entre guillemets, en termes de format pour le redéployer facilement. On comprend que ça devient quelque chose qui est idéal en fait pour le développement et les tests. En fait, quand on va rentrer un peu dans le détail des containers, vous allez comprendre que ça va au-delà de ça et qu'il y a vraiment plein de fonctionnalités qui font que pour le développement et les tests, c'est absolument génial comme solution.
Oui, et puis pour l'IT également, puisque l'IT peut très bien mettre à disposition de ses développeurs des containers mis à jour régulièrement, avec des images mises à jour régulièrement, avec l'aspect déclaratif dont tu parlais, l'aspect scriptable, automatisable, etc., qui sont très...
Effectivement, et on va parler de ça après. Mais donc à retenir, principalement dans cette première slide, on parle de virtualisation d'OS. Donc l'aspect virtualisation est intéressant pour l'applicatif. L'applicatif croit qu'elle est sur son OS dédié, même si ce n'est pas le cas. Elle est isolée, on est sur un package et on est sur quelque chose qui est déplaçable, déployable un petit peu où on veut, et on va en reparler tout à l'heure. Donc idéal pour le dev and test, effectivement aujourd'hui, ce qu'on constate un petit peu comme la virtualisation 2001, 2002, 2000, c'est effectivement que les containers sont généralement utilisés plutôt pour du dev and test, et que quelques entreprises très, très agiles qui sont vraiment en mode DevOps et qui ont été les premiers à utiliser ces technologies réellement en masse, société du web, eux l'ont déjà en production, mais ça veut dire que derrière, ils ont également une organisation humaine et la gestion du travail qui est organisée pour ça et donc qui est complètement compatible avec ce type en fait, de solutions techniques. Donc, quel usage pour les conteneurs ? Donc, si on devait résumer en un mot le bénéfice d'un conteneur, c'est l'efficacité. Efficacité parce qu'on va avoir en fait une unité donc applicative et donc de déploiement qui pourra aller un petit peu partout. Elle pourrait être déployée sur du cloud public, elle pourrait être en mode hybride avec des composants dans le système d'information sur site et dans le nuage. C'est complètement orienté dans une approche de type DevOps où on est réellement sur de l'infrastructure as code et du déploiement continu. Parce qu'en fait, effectivement, c'est à ça que servent les mécanismes de containers et les mécanismes d'orchestration de containers au-dessus. Donc, la portabilité, c'est probablement un des éléments les plus importants. Et cette portabilité, plus la capacité de déployer de manière très rapide, parce qu'on est sur de la. Je vais appeler ça des micro-images ou des petites images. On verra tout à l'heure ce qu'on entend par des images ou petits containers. Fait que effectivement, ça permet d'être relativement très agile et de ne pas avoir toutes ces phases d'installation de systèmes d'exploitation ou de machines virtuelles telles qu'on le fait aujourd'hui ou on le faisait il y a quelques années, on le fait encore aujourd'hui. Effectivement, et du coup, mettre en prod rapidement une nouvelle version d'une application ou de changer de corriger un problème ou de revenir sur une version précédente est excessivement simple avec les containers. Et en fait, les containers prennent fondamentalement toute leur valeur quand elles sont combinées avec ce qu'on appelle les microservices. Donc les microservices, on va dire que ce seraient les applications du web de troisième génération peut-être. C'est-à-dire qu'on a connu les classiques architectures de type 3 tiers avec le frontal, enfin la zone frontale, le middleware, le back-office. On a commencé à connaître après des applications qui étaient plutôt des modèles plus simples où c'était un back-office et puis une simple couche applicative. Dans les microservices, en fait, l'idée est de découper une application en fait en unités excessivement simples et atomiques qui sont un service fait un rôle. J'essaie de matcher ça sur un exemple. Imagine par exemple un jeu avec multijoueur avec des vaisseaux amis, des vaisseaux ennemis, etc. À la limite, chaque instanciation d'un vaisseau qui sera dans le jeu sera un micro-container qui sera en train de tourner avec un code derrière. C'est un exemple qui n'est pas forcément très bon, mais c'est l'idée de ça derrière. Et ça veut dire qu'en fait, le fait de déployer des microservices et qui ont chacune en fait un rôle très précis. C'est-à-dire que c'est pas un très gros code, un microservice, c'est vraiment un truc qui fait une chose. Permet comme ça de faire évoluer globalement une plateforme de manière vraiment en DevOps, parce que du coup, chaque équipe peut être dédiée à gérer vraiment une petite partie de l'ensemble et peut se permettre de mettre à jour, de corriger, d'améliorer cette petite partie sans impacter tout le reste.
Et on a un aspect aussi scalabilité, donc passage à l'échelle.
Exactement.
Au niveau de chacun de ces composants, de ces microservices.
Exactement. C'est-à-dire que là, la plateforme n'est pas, ne se scale pas par rapport, par exemple, en disant les frontal web vont tenir, on va les faire monter en fonction de la demande et la base de données, on va les faire monter en fonction de la demande. Parce que l'application, peut-être que dans l'application, tout est bien optimisé, il y a peut-être un élément du code, une fonctionnalité qui va prendre plus de ressources que le reste. Mais comme là, chaque fonctionnalité, entre guillemets, est ramenée dans un microservice, on pourra faire scaler effectivement juste le microservice qui a besoin de plus de puissance ou qui est plus sollicité par les utilisateurs, les consommateurs de la plateforme. Donc effectivement, comme tu l'as dit, le fait de développer comme ça sous la forme de microservice permet justement d'adapter au mieux les montées en charge de ressources par rapport à des fonctionnalités données. Donc voilà, oui. C'est pas, les microservices ne sont pas quelque chose de 100% nouveau, parce que ça fait quelques années que certains acteurs du web, des grands réseaux sociaux l'utilisent déjà. Mais c'est en train de se généraliser. Effectivement, les développeurs de demain du web doivent penser microservices et plus penser application entre guillemets monolithique web qui va consommer après des données derrière.
Il me semble que certains services de Azure sont implémentés sous forme de microservices.
Oui, on a déjà des services pour justement assurer cette fameuse scalabilité après derrière. Donc, un petit peu d'histoire sur les conteneurs, parce que les conteneurs, en fait, c'est pas. Alors, on va déjà reprendre l'analogie pourquoi un conteneur. En fait, il y a quelques dizaines d'années, ou un petit peu plus, presque un siècle, il y a des sociétés et des personnes qui ont eu l'idée, en fait, de standardiser, en fait, le transport maritime ou le transport des marchandises, en créant, en fait, des unités de transport intermodal, des conteneurs, donc physiques, on a une illustration sur l'image. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, désormais, tout le trafic de marchandises de par le monde est basé sur l'utilisation de conteneurs qui, en gros, ont des tailles standardisées. Il existe trois tailles, à ma connaissance, à peu près. Et l'avantage d'avoir effectivement un standard, C'est qu'à partir du moment où ce standard a été défini, bah, tout le monde peut l'adopter, quel que soit le transport. C'est-à-dire qu'un conteneur, il est placé dans un bateau, et le bateau est taillé pour contenir des conteneurs de telle longueur. Et quelle que soit la marque du conteneur, comme il y a eu un standard, on vient poser le conteneur. Et puis quand le bateau arrive sur le port, le conteneur est sorti par une grue qui est là encore adaptée à la taille et au format, au standard des conteneurs, et peut être posé sur une remorque, par exemple, de camion.
Ou sur un train, sur un wagon,
etc. Et en fait, le fait d'avoir créé ce standard et cette notion de portabilité, parce que tout le monde, en fait, utilise le même, on va dire, le même socle, le même moteur de transport de ces enveloppes, de ces conteneurs, a fait drastiquement baisser les coûts du transport de marchandises, parce que désormais, tout est optimisé. On est capable, effectivement, d'industrialiser, entre guillemets, la création d'outils, de véhicules pour transporter, en fait, ce genre de choses. Et on sait que ce sera toujours la même chose. Donc cette notion finalement de transport intermodal, elle s'applique complètement dans le monde du développement, et c'est pour ça que ça devient intéressant et qu'on parle effectivement d'unité qui va pouvoir être déployée un peu partout, et d'où l'avantage effectivement de pouvoir dire je fais des choses sur le poste du développeur, sur le poste de pré-prod et puis sur le cloud public par exemple. Et en fait la virtualisation d'OS, ou on pourrait appeler ça virtualisation de processus finalement, de faire croire à l'application que toutes les librairies et tout ce qui tourne derrière du point de vue du système d'exploitation et que pour elle. Ce n'est pas des choses qui sont à 100% nouvelles. Il y a eu plein de technos qui existent depuis, je dirais, la nuit des temps, à l'échelle de l'informatique, hein, bien entendu, que ce soit chroot, des choses comme chez BSD avec BSD Gel, Virtuoso. Les containers existaient déjà dans Solaris en 2005. Linux LXC, Lix.
Oui, LXC ou LXI.
LXI pour ouais. Les connaisseurs. Mmh.
2008, donc c'est quelque chose de assez récent, en étant plus vieux que Docker, qui voilà. Est quand même assez récent. Comme,
et Docker, en fait, est une société qui est une solution qui est relativement jeune, hein, parce qu'on parle de 2013. Mmh. Et pourtant, il y a un énorme engouement dessus, et il y a un écosystème qui est devenu absolument monstrueux dessus, parce que la plupart des entreprises ou des développeurs ont tout de suite adhéré en fait au concept qu'on va détailler juste après, et effectivement du concept du conteneur. Alors, pour être tout à fait clair, Docker utilise plein de choses qui existaient déjà avant et rend juste plus simple leur utilisation. Donc on va dire c'est une sorte de packaging de techno qui existait avant, plus l'ajout de quelques fonctionnalités, qui rendent en fait la création de conteneurs et leur usage simple et efficace au jour le jour. Chose qui n'était pas possible avant, sinon on se doute bien que des choses comme Solaris Container auraient explosé si déjà c'était la demande à l'époque. Donc là on est vraiment en adéquation avec aujourd'hui cette approche de développement qui est le DevOps, plus les plateformes de cloud, plus le mobile aujourd'hui qui a besoin de ce type d'infrastructure derrière. Et donc on va dire qu'ils sont arrivés juste dans le bon espace-temps, et puis qu'ils ont bien packagé ça pour le rendre en fait réellement utilisable. Donc, je ne sais pas si tu veux un petit peu détailler peut-être sur quoi s'appuie Docker en sous-jacent.
Oui, on voit qu'il s'appuie sur LXC, donc technologie récente de containers de Linux. Tout ceci s'appuie en fait sur des technos tu parlais tout à l'heure de chroot, qui était l'ancêtre un petit peu de virtualisation de file system, mm-hmm. où chaque process chrootait, si on veut.
Du verbe chrooter,
exactement.
Voilà.
Voit un file system à lui. Voit les choses comme s'il était seul sur son file system, en fait. Donc il a son propre slash etc, son propre slash je sais pas quoi, enfin bref. Et donc on retrouve cette notion dans la virtualisation des namespaces, où on a une virtualisation de tout ce qui est arborescent. Et puis sous Windows, on verra également qu'il y a d'autres namespaces que le file system qui seront également virtualisés. À côté de ça, on a les cgroup, donc ils sont une notion utile pour les containers en ce qu'il permet de virtualiser les ressources comme la CPU, la mémoire, le réseau. Donc c'est les cgroup qui permettent cette virtualisation-là. Et donc avec l'ensemble de ces technologies-là, donc les namespaces, le file system et les cgroup, on a de quoi virtualiser les différents composants de l'OS. Au final, le container s'exécute dans un environnement où il croit qu'il est le seul à utiliser l'OS, mais il utilise l'OS sur lequel il est installé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir dans un container un OS différent de l'OS sur lequel on est installé.
Alors ça, c'est fondamental ce que tu dis. Ça veut dire que typiquement, sur une machine qui a un moteur de container Linux, on ne pourra pas instancier des containers Windows.
Exactement.
Et sur une machine Windows qui a un moteur de container, on ne pourra pas instancier des containers Linux.
Exactement. Et sur un Linux, on pourra instancier des containers d'une distribution différente. Par exemple, on peut faire du Debian sur Ubuntu et réciproquement. Par contre, on aura toujours le même noyau, puisque ce sera le noyau de l'OS qui est en dessous. Quand tu feras uname -a pour afficher la version du noyau, tu verras celle du noyau qui est en dessous.
Alors du coup, vient naturellement la comparaison entre ce qu'on appelle les machines virtuelles, telles qu'on les connaît tous maintenant aujourd'hui, et les containers. Donc, l'architecture classique de l'ensemble d'applications qu'on peut avoir qui tournent dans des machines virtuelles prendra en général toujours cette forme-là. Donc on aura le serveur, la machine physique. Au-dessus de cette machine physique, alors d'ailleurs on aurait dû inverser si on avait été réellement très propre, on a l'hyperviseur. Et le système d'exploitation dit hot, qui est en général la première VM du système.
Oui, c'est
on a simplifié le 0, etc. Donc, machine physique, hyperviseur avec son OS, et puis au-dessus, en fait, on est des machines virtuelles. Dans chaque machine virtuelle, il y a un système d'exploitation invité, un guest OS. Il y a des librairies, des frameworks qui sont installés, et puis il y a l'application qui consomme ces librairies, ces frameworks. L'application tourne dans un système d'exploitation qui est lui-même au sein d'une machine virtuelle. Et donc, il est dans son environnement isolé à lui, avec son système d'exploitation, etc. Et ce système est lui-même virtualisé sur un système physique. Voilà. Si on prend les containers, sur les containers, on est sur quelque chose où normalement, on doit pouvoir, de manière isofonctionnelle, à faire tourner plus de containers que de VM pour une machine physique donnée. On a la machine physique, on a le système d'exploitation et on va avoir un moteur de gestion de conteneurs. Donc ici, on l'a écrit d'entrée, effectivement, on parle du moteur Docker. Donc ce moteur de conteneurs qui permet justement de recevoir le socle et de mettre des conteneurs de différentes tailles dessus. Et au-dessus de ce moteur de conteneurs, on va avoir les différentes librairies ou binaires utilisables par les applications. Et effectivement, on voit ici qu'on n'a pas à instancier, à dédupliquer plusieurs fois en termes de stockage et de stockage physique sur le disque et de stockage en RAM, les binaires, les librairies. Et donc, du coup, plusieurs applications peuvent consommer les mêmes binaires et les mêmes librairies sans avoir à les recopier, en avoir une image à eux dans un coin.
On va retrouver cette notion dans un schéma
juste
tard,
après, qui sera un petit peu plus tard.
Sur les layers et tout ça, c'est super intéressant.
Donc effectivement, l'économie entre utiliser des conteneurs versus des machines virtuelles, c'est que à chaque fois qu'on a une nouvelle version, une nouvelle application dans les machines virtuelles, si on veut faire une application une machine virtuelle, et bien à chaque fois, on se rajoute un overhead, entre guillemets, qui correspond à la taille sur le disque de la machine virtuelle. On ne parle pas de techno d'application, on va faire simple. L'espace, l'empreinte disque sur le disque dur du système d'exploitation de la machine virtuelle, plus la consommation mémoire du système d'exploitation de la machine virtuelle. Et quand on multiplie ça par des dizaines ou des centaines d'applications, et bien du coup, on commence à avoir un énorme overhead de mémoire RAM sur la machine physique qui sont consommées, plus d'espace disque sur la machine physique qui sont consommées. Dans un conteneur, il y a une mise en commun, on va dire, des ressources et des librairies, et il n'y a pas une réinstanciation à chaque fois d'un système d'exploitation invité, ce qui fait que du coup, on économise de la RAM, on économise du disque dur, et donc effectivement, chaque application, par la technique de virtualisation d'OS, de Docker ici, en fait, chaque application croit être sur son système à elle, isolé, grâce aux techniques d'isolation que tu nous as décrites juste au préalable, LXC, CNAME,
C-Group,
et LayerFS.
Donc,
on a commencé par le Docker, du coup, c'est quoi Docker, Pascal ?
Donc, Docker, c'est la solution qui a démarré son existence donc, sur Linux pour manipuler des conteneurs LXC, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est un modèle avec une architecture de type client-serveur, c'est-à-dire qu'on a un client et un serveur. Alors, donc, le serveur, c'est le moteur Docker, c'est lui qui va gérer les conteneurs, qui va savoir gérer les images. On verra ce que c'est que la notion d'image, les conteneurs eux-mêmes, les démarrer, les arrêter, mettre en place tout ce qui est communication réseau, etc. Et puis, on a le client qui est une ligne de commande, Docker, qu'on va utiliser pour causer avec le moteur. Le moteur qui peut être soit sur la même machine, soit sur une machine distante. Et on connaît bien ça. Hein, donc, on envoie des ordres au moteur pour contrôler nos containers. Ces ordres-là, ils sont envoyés avec des appels REST, Donc, c'est-à-dire qu'on a une communication de type HTTP. Quand on est à distance, il faudra mettre en place HTTPS, donc un certificat, ce genre de choses. Évidemment.
Alors, on est sur une techno qui hérite, enfin, qui s'appuie sur des mécanismes Linux, ligne de commande.
Tout à fait, mais depuis le début, enfin depuis qu'on a fait des annonces, que Microsoft a fait quelques annonces avec Docker, la première chose qu'on a faite, c'est livrer un client docker.exe, donc la ligne de commande cliente de Docker pour Windows, qui pouvait au départ simplement communiquer avec des serveurs Docker, enfin des serveurs exécutant le moteur Docker qui sont sous Linux évidemment, puisque à ce moment-là n'existaient que des moteurs Docker sur Linux.
Ça, on en parlera tout à l'heure, effectivement, de la partie conteneur moteur sur Windows.
Donc une ligne de commande Docker qu'on va utiliser en ligne de commande pour exécuter des commandes du type lister les images, démarrer un conteneur, etc., etc. Donc décrire les images d'une application à déployer dans un conteneur, publier une image dans un repository. Donc un repository, c'est une notion de store ou de, comment on peut dire en français, repository.
Un magasin, une bibliothèque.
Une bibliothèque d'images, soit publique, soit privée. Donc au départ, on n'existait qu'un magasin public, le Docker Hub. Voilà, j'ai cherché le mot. Donc dans lequel on va pouvoir trouver des images standards de certains OS, certaines applications, etc. Et puis maintenant existe une notion de repository privé dont on va reparler également. Donc on peut installer chez soi, dans son data center, un magasin d'images Docker prêt à l'emploi. Quoi.
On peut également, on en parlera tout à l'heure, avoir son propre magasin, sa propre repository privé, mais hébergé dans un fournisseur de cloud public. Azure en est un exemple parmi tant d'autres.
Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant pour les développeurs qui vont pouvoir développer, mettre à jour leurs applications dans leur container, sur leur poste, hop, le publier dans ce qu'on appelle un registry, donc le magasin central qui peut être privé ou public, et puis automatiquement faire les déploiements depuis ce registry, etc. Donc voilà, tout est dans la ligne de commande Docker pour gérer cet ensemble de fonctionnalités au niveau des images, des containers, des repositories,
etc. Il n'y a pas des centaines de commandes, il y en a quand même une quarantaine aujourd'hui, et il y a quand même un bon paquet d'arguments derrière, donc c'est relativement riche quand même.
On va en voir juste quelques-unes. Donc ce client est disponible sur Mac, Linux et Windows, avec exemple de commande, Docker run pour instancier un nouveau container et l'exécuter et s'y connecter. Quoi. Docker pull pour récupérer une image depuis le Docker Hub ou depuis un registry privé si on en utilise un. Quand on va faire Docker pull, en fait, on va récupérer l'image, on va la télécharger et puis elle va être disponible dans notre librairie locale, sur notre machine locale. Ce qui est intéressant, c'est quand on va faire ce pool également, selon cette architecture de couches qu'on va voir juste après, et de delta, en fait, en des différentes images, on ne va pooler, on ne va récupérer, télécharger que ce qui est utile par rapport à ce qu'on a déjà. Par exemple, si je veux récupérer une image plus récente d'une image que j'ai déjà, je ne vais récupérer qu'un delta, en fait.
On verra ça après, on a un petit schéma qui va bien expliquer.
Très intéressant pour économiser la bande passante, évidemment. Et Docker Build pour construire une nouvelle image à partir d'un delta qu'on aurait fait. Par exemple, je récupère une image, j'instancie un container, je fais des opérations dessus, je fais un build pour construire une nouvelle image. Ou alors, j'écris un script, et ça va intéresser les IT, la notion de Dockerfile,
qui permet
d'écrire un script pour décrire une nouvelle image qu'on va builder avec Docker Build. Le moteur est disponible sur les distributions Linux. Donc on l'a sur pas mal de distributions Linux. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur le site de Docker et quand on souhaite installer le moteur Docker sur un Mac, par exemple, sur macOS, en fait, ce qu'on descend, ça va être un moteur VirtualBox, virtualisation de machine, VirtualBox, une machine virtuelle Linux avec le moteur Docker dedans.
Ouais. Donc c'est vrai, effectivement, du coup, là, on va pouvoir... on est réellement dans un système d'empilement de virtualisation, c'est-à-dire qu'on a de la virtualisation de machine et dans cette machine virtualisée, on va pouvoir mettre de la virtualisation d'OS.
Exactement. Exactement. On va faire un peu de l'inception.
On est totalement dans l'inception. faut tout à fait...
Et donc, par exemple,
cette fameuse machine Linux dont on parle qui va contenir ce moteur Docker, Ça peut être une machine physique, ça peut être une machine virtuelle sur, comme tu l'as dit, hein, VirtualBox, ça peut être Hyper-V, ça peut être VMware, ça peut être Azure, ça peut être AWS.
Et évidemment, pour nous, ça sera plutôt des VM dans Azure, Hyper-V, etc. Et on va voir que tout est prévu pour dans Azure. Donc ces images Docker, cette belle image de millefeuille, hein, c'est pour illustrer le fait que
on empile des couches.
On empile des couches.
Exactement.
Des deltas, des opérations successives qu'on va faire à partir d'une image de base. Donc par exemple, on part d'une image de base, par exemple un Ubuntu, et puis on va installer dedans des choses. On va installer un Node.js par exemple, dans le cas que je vous montrerai tout à l'heure, qui sera le cas de la commande Azure, de la ligne de commande Azure que je veux sur un container Ubuntu.
D'accord.
Il va me falloir Node.js pour installer cette ligne de commande Azure.
Donc par exemple, si on a installé, je sais pas, un blog WordPress, on partir d'une image de base qui est un OS, donc on pourrait dire, tiens, je vais prendre par exemple une image Fedora, dire par-dessus, alors, pour faire du WordPress, j'ai besoin d'un ensemble d'éléments, donc on pourrait rajouter une couche qui serait Apache, qui serait donc le serveur web, une couche qui serait MySQL, une couche qui serait PHP dans une version X, Y ou Z, et après, une couche qui serait réellement l'application WordPress. Le fait d'avoir cet empilement de couches, le schéma va nous l'expliquer après, c'est qu'également on peut remplacer les couches par des couches avec des versions différentes.
Tout à fait.
Donc par exemple, PHP qui est en version, je dis n'importe quoi, une vieille version 4 quelque chose, pourrait dire, hop, je vais remplacer la couche 4 et je vais tester avec la couche 5. Et donc on passe d'une version de la couche qui était la couche PHP 4 à la couche PHP 5 et le reste on le garde. Et du coup, on peut pouvoir tester rapidement du coup,
tout à fait.
Le fonctionnement de l'application.
Et comme on parle de DevOps hein, beaucoup avec ces environnements, ça va intéresser à la fois nos amis IT qui vont pouvoir mettre des patchs, gérer la sécurité, les mises à jour, etc., les évolutions des couches infra, des couches de base, quoi, le serveur web, etc. Et puis les développeurs qui vont pouvoir gérer leurs couches applicatives où là, ils vont développer, etc. Et au final, on aura un container... une pile complète qui sera à jour, et, etc. Donc, on soupçonne également derrière tout ça la nécessité très forte d'avoir des mécanismes d'orchestration pour automatiser tous ces processus de mise à jour.
Je pense que c'est même plus maintenant on soupçonne, c'est que du coup, tout le monde commence, une fois que tout le monde a commencé à assimiler le concept du conteneur, il se dit, oui, mais alors il y a tout ça du coup qu'il va falloir gérer. Effectivement, ce n'est pas une solution magique qui fait que tout ce qui existait jusqu'ici comme approche de gestion va changer. Ce n'est pas parce qu'on a un container qu'on ne va pas devoir effectivement le maintenir à jour, avoir un état d'un parc complet, d'être capable de remonter les performances de tel ou tel truc, d'établir quelles relations de confiance on va mettre entre tel container, quelles relations réseau. Enfin, on ne réinvente pas le monde, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont assez nouvelles. Donc tout à l'heure, on parlait de ce millefeuille. Donc là, c'est une illustration un petit peu plus technique de ce millefeuille, entre guillemets. Donc effectivement, ce qu'on a en commun dans tous les containers, historiquement en tout cas Docker, c'est ce fameux, donc dans Windows sera similaire, c'est d'avoir une base qui est effectivement un kernel. Donc le kernel, c'est le système d'exploitation minimum qu'on va avoir dessous, donc distribution X, Y ou Z de Linux. Et par-dessus, effectivement, donc, on va avoir cette image de base. Donc ici, on a un Debian par exemple. Et ensuite, eh bien, effectivement, chaque couche, on rajoute en fait des composants applicatifs. Et puis chaque image, chaque couche va référencer en fait son parent, l'image parent. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure très très bien, on est sur un mécanisme dit de différentiel, ce qui du coup explique l'optimisation et la facilité de déployer rapidement parce qu'on ne déploie que le delta ou le différentiel. Et la dernière couche entre guillemets empilée et instanciée et qui est donc en écriture, c'est réellement le container entre guillemets.
Voilà, donc là on voit qu'il y a une couche avec écrit sur la tranche, la add imax. Donc c'est intéressant parce que c'est effectivement la description de cette couche, c'est l'action qui est faite au niveau de cette couche-là. Et donc il y a un côté scriptable qui est super intéressant dans l'histoire. On a ajouté tel composant.
Donc là on a un exemple qui est simple, on va le faire un petit peu plus riche avec une deuxième image. Où là, effectivement, on voit qu'on est toujours sur cette notion de kernel de la machine Dockerhost qui est partagée. Et puis au-dessus, effectivement, là, on a deux images donc de deux distributions différentes de voilà. Linux. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est là où, effectivement, en fonction de distribution, ça va rajouter les spécificités de la distribution, mais ouais. ça exploite les mécanismes.
Le même noyau,
les mécanismes standards. Donc ici, on a une deuxième image qui est une image BusyBox, là qui est une couche plus simple, où effectivement, on a juste l'image du système d'exploitation, et puis au-dessus, le conteneur qui est instancié, qui lui est en écriture à ce moment-là. L'image en tant que telle n'est pas quand elle est exécutée, ce n'est pas l'image qui est exécutée, c'est une instanciation d'une image qui, elle, est modifiable. L'image en tant que telle, une fois qu'elle est dans la repository, elle ne se modifie pas.
Et c'est super rapide. Quand on démarre ça, mm-hmm. quand on démarre le container, on n'a pas tout redémarré le noyau, etc. Donc, à la limite, l'action de démarrer, elle est très rapide. Elle
est quasiment oui, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde était assez excité sur les containers pour justement cette notion de scaler très rapidement, entre guillemets, en rajoutant juste un petit élément et paf, en le démarrant. Et comme le reste est déjà démarré, effectivement, on ne fait que le delta de démarrage. Alors Dockerfile, tu nous as parlé un petit peu de scripting.
Donc, bah justement, le Dockerfile, c'est ce qui permet de décrire un petit peu ce qu'il y avait sur la tranche de ton schéma précédent. Mm-hmm. C'est qu'est-ce que je fais comme action pour faire de ma nouvelle image, en fait. Donc, c'est quelque chose ça ressemble à un script, avec des commandes un petit peu particulières à Dockerfile. Si on peut un petit peu zoomer sur le milieu, sur l'image du milieu,
celui-ci,
on a
là.
Le from qui dit, voilà, je vais faire un delta par rapport à telle image que j'ai déjà. Donc, par exemple, une image qui serait Microsoft/ASP.NET. Alors c'est déjà la syntaxe, là c'est quoi? C'est Microsoft qui a publié dans le hub Docker public une image qui s'appelle ASP.NET et qui est en version actuellement VS-1.0.0-beta4. Donc ça c'est le numéro de version après les deux points. Mm-hmm. Et donc c'est une image Linux avec ASP.NET Linux dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait comme action? Ben, on fait un add. Donc, je pense que cette commande add avec cette syntaxe-là crée un répertoire qui s'appelle /app. Mm-hmm. Et puis ensuite, on positionne le work directory à tel répertoire, etc. Et puis on fait des choses. On peut faire également des commandes de type.
Un autre exemple, je peux peut-être le zoomer ici.
Donc le run, c'est la commande qu'on va. Donc le add, voilà, le add, c'est pour ajouter un fichier ou un répertoire. Le run, c'est pour décrire ce qu'on va exécuter au lancement, par défaut, au lancement à l'exécution du container.
Ouais, ici, on voit la terminologie très Linux, parce que là, on est sur des exemples Docker, sur des distributions Linux. Dans le concept, ce sera la même chose, effectivement, avec le Windows.
Puisqu'on est sur le Dockerfile,
tu peux nous le montrer. Hein.
Je peux en montrer un. Vas-y. rapidement sur ma machine. Je vais zoomer un petit peu.
Donc là, tu es sur une machine Linux qui a un moteur Docker installé.
Qui a un moteur Docker installé. Et j'ai fait un Docker build, donc j'ai créé une nouvelle image à partir d'une image existante. Donc l'image existante, alors, j'ai mon curseur ici, s'appelle docker/whale-say, ici. Deux points latest pour dire je pars de la dernière version de l'image qui s'appelle docker/whale-say. Donc c'est une image qui contient une commande. Je vais l'exécuter tout à l'heure pour voir ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait un run. Donc je me suis trompé quand j'ai dit tout à l'heure l'explication du run. Le run, c'est une commande que je vais faire pendant ce delta, quand je vais construire ce delta justement. Donc qu'est-ce que j'exécute dessus? On a apt-get update et apt-get install. Donc je mets à jour la librairie apt-get et j'installe une nouvelle feature, un nouveau composant sur l'image. Et j'ai installé en l'occurrence le composant Fortunes. Qu'est-ce qu'il fait ce composant?
Il
installe une commande. Non, il ne me rend pas riche. Mais c'est un peu comme les Fortune Cookies aux États-Unis. C'est les petites maximes, les petits proverbes que tu trouves sur les petits bouts de papier. Donc, tu lances Fortune et ça t'affiche un nouveau proverbe.
C'est un petit gâteau chinois, ça. Je ne suis pas sûr que ce soit américain.
Fortune Cookies. Bon. Oui.
C'est peut-être des Chinois.
On trouve dans les restaurants chinois aux États-Unis.
Qui ont trouvé ça, effectivement.
Voilà. Et donc, le CMD, c'est la commande là qui va s'exécuter si je lance le container, si j'exécute le container sans rien demander comme action particulière. Il va exécuter ces deux commandes-là. Donc, /user/games/fortune-a. IP dans CoSay. Donc CoSay qui est la commande qui était à la base dans l'image, qui permet d'afficher un texte avec un petit dessin rigolo.
Qui est une vache.
Donc, c'est une petite à l'origine, bulle. C'est une vache.
Ouais. Mais maintenant, il y a plein d'autres versions.
Donc dans Docker, pour l'exemple, la démo de Docker classique, c'est une baleine. Et cette fois-ci, la baleine, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas dire le message que je lui donne, comme classiquement, mais elle va dire le message de fortune, qui vient de fortune.
D'accord.
Et donc, si j'exécute ce container, enfin un nouveau container basé sur cette image.
On le verra tout à l'heure, je pense. On va finir la chose et puis on regardera pour la démo de tout à l'heure. Donc, là, tu nous as mis en haleine pour la suite, Pascal. On a parlé tout à l'heure de repository public ou privé. Donc, il y en a un public qui est officiel de Docker qui s'appelle le Docker Hub. Donc, ce qu'on appelle la registrie. Donc, c'est là où on va stocker toutes les images de containers. Il y a un index public, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les images qui sont stockées publiquement sont indexées par Docker et sont recherchables et sont également évaluables et on peut les classer. C'est-à-dire que la communauté des gens, certaines personnes peuvent faire des images, d'autres les réutilisent, et ceux qui les réutilisent peuvent dire « Oh, l'image était bien, je lui donne une bonne note. »
Des petites D'accord étoiles.
Et donc, on va pouvoir faire donc, un système de rating, effectivement, d'étoiles qui est assez intéressant là-dedans, parce que du coup, quand on va vouloir chercher, par exemple, une image, je sais pas, d'un Ubuntu avec un Apache, on peut faire une recherche dans le Docker Hub, effectivement, d'Ubuntu avec un Apache, et puis on peut dire « Donne-moi uniquement... les images qui ont un rating ou une note supérieure à, je sais pas, je dirais 5 ou égale à 5, qui sont dans les plus téléchargées, donne-moi le classement des 10 distributions avec Apache, etc. Et du coup, à ce moment-là, on a la proposition. Sachant qu'il existe dans Docker, chaque personne qui se crée un compte Docker peut peser ses propres images. Il y a des entreprises également qui le font, donc il y a des images dites officielles. Géré par exemple par Canonical pour Ubuntu, par Red Hat, etc.
Par Microsoft.
Donc il y a des images qui sont officielles sur lesquelles on peut avoir une confiance plutôt bonne parce qu'elles sont faites directement par l'éditeur. L'éditeur ou la communauté associée. On a également une chose qui est assez intéressante dans le Docker Hub, qui est donc au-delà du système de stockage et du référencement des images, c'est les mécanismes de build automatique. Donc en gros, les développeurs ou les IT ou les DevOps vont définir et lier en fait à leur repository en fait un dépôt de code, donc un Git, un GitHub, un Bitbucket. Et du coup, les développeurs, ils continuent à travailler comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils font leur code et puis sauvegardent leur code dans un référentiel de dev, donc un GitHub par exemple. Et automatiquement, à chaque changement, à chaque mise à jour, changement de version, on a un système en fait, qui va construire automatiquement l'image Docker de cette nouvelle application avec un nouveau numéro de version. Donc le développeur, en gros, ne se pose pas trop la question de « alors j'ai mon dev, je le compile et puis après je dois aller le déployer quelque part ». C'est fait automatiquement depuis en fait, l'espace où est stocké son code, son source dépôt. En fait.
Donc on peut récupérer les...
Exactement.
Une build quotidienne sous forme de container.
Exactement. C'est directement packagé automatiquement. À chaque commit, en fait, chaque commit de code source dans le dépôt, automatiquement, en fait, le dépôt GitHub ou Bitbucket, automatiquement, en fait, l'image du container est générée et positionnée dans la Docker registry publique. C'est pour ça que les développeurs aiment bien GitHub GitHub aiment bien Docker. Et que les DevOps adoptent Docker, parce que là, on est réellement dans un processus d'industrialisation et d'automatisation de choses qui
sont quand même... Et de continuité dans le...
Voilà, et de facilité pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire c'est facile, du coup, les développeurs peuvent tester rapidement leur code en démarrant un container basé sur l'image qui a été automatiquement gérée de leur code qui a été committé. Les IT, eux, ont automatiquement un endroit où tout est stocké, et ils n'ont pas, à chaque fois que le développeur fait une version, à dire, voilà, quand je vais te déployer une machine virtuelle, tu veux quelle version, de quel truc, etc.
Ouais. Chacun, et puis une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est fondamentale dans l'intérêt qu'on peut avoir dans ce genre de techno-là, c'est que dans le container, on va avoir l'application à jour, etc., mais avec ses dépendances.
Bien sûr.
Et on sait très bien qu'installer une appli, mais surtout sur certains OS comme Linux, etc., avec toutes les dépendances que ça suppose, c'est pas simple.
Ouais. Bon, je pense qu'on a le même problème sur Windows aussi, quand on va jouer sur les frameworks.
Oui. Mais effectivement, pouvoir récupérer un container qui contient l'application avec déjà tous les problèmes de dépendance réglés parce que le développeur, il a tout fait lui-même sur son container pour que ça marche, pour tester.
Exactement.
C'est super appréciable.
Et donc là, on va avoir effectivement une image de container qui référencera donc des parents où on a une stack déjà qui est prête. Oui. Du coup, le changement de la version est relativement simple à faire. Alors ça, c'était juste une capture d'écran du
Hub.
du hub Docker, dans lequel effectivement on a ce qu'on appelle les official repositories, donc les dépôts officiels. Donc là, on voit des distributions Linux fort connues, CentOS, BusyBox, Ubuntu, Fedora, etc. Donc effectivement, on y accède par hub.docker.com. Il vous faut un compte Docker que vous pourrez créer gratuitement. Et si je ne dis pas de bêtises, et si je retrouve ici mon Docker Hub, voilà. Donc là, par exemple, moi, j'ai un compte ici. Donc on voit que j'ai dans la registrie publique de Docker, donc dans le Hub, j'ai mon propre repository qui s'appelle, avec mon nom, slash, démo. Après, on peut réorganiser le tout. Bon, personne ne m'a noté et personne n'est venu chercher mon image. En même temps, c'est normal, j'ai créé une image de démo et je l'ai supprimée, donc ça peut se comprendre. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant chez moi, mais si on vient sur là-dessus, on peut créer des équipes là-dessus et subdiviser l'ensemble. Mais on pourrait rechercher, je ne sais pas, on dit Ubuntu. Voilà, si je recherche Ubuntu, je vois qu'il y a 7500 dépôts de différents utilisateurs qui ont été créés, qui contiennent des images basées sur de l'Ubuntu. Mmh. Et puis là-dessus, on voit effectivement que la première, celle où il y a eu le plus de récupération d'images pour réutilisation, eh ben, c'est le dépôt officiel de Ubuntu, et qu'il a été très bien noté, effectivement, parce qu'il a 2000... Donc là, c'est des étoiles, en fait. Quand on est content, on met une étoile, 2000 étoiles, et puis après, on peut avoir du détail derrière.
17 millions de téléchargements.
Voilà, ouais, c'est un peu gros. Hein. Et donc, on le verra tout à l'heure, parce que tu vas nous faire quelques exemples d'utilisation de la ligne de commande Docker, mais pour récupérer, par exemple, les images Ubuntu, Docker, pool, Ubuntu. Et on peut également préciser deux points à la test si on veut la dernière version et pas récupérer toutes les différentes déclinaisons. On voit effectivement qu'ici, ça contient pas mal de différentes déclinaisons d'Ubuntu, de la 12.04 à la 15.10.
Donc, ça veut dire effectivement... 15.10, donc, qui est en bêta aujourd'hui.
Voilà, quand on va récupérer, quand on va faire un Docker pool Ubuntu, on va toutes les récupérer, ce qui permet éventuellement de tester son application sur différentes déclinaisons, différentes versions de Docker. Et là on gagne vraiment du temps par différentes versions d'Ubuntu, pardon. Oui. C'est là où on peut voir qu'on peut gagner vraiment pas mal de temps par rapport à réinstancier soi-même différentes machines virtuelles, etc. Donc chaque repository, en fait, contient, et c'est à vous de le remplir, des informations, une description, et puis ici, pas mal d'informations qui disent il y a quoi à l'intérieur, etc. Donc c'est à chacun également de bien le packager, de bien expliquer, de documenter. Et puis voilà, et puis les gens peuvent commenter également. Donc ça, c'est la registrie publique. Quand on crée un compte sur Docker, on ne peut créer que des repositories publics. On ne peut pas faire quelque chose de privé. Si on veut du privé, à ce moment-là, il faut payer à Docker, c'est un abonnement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un petit peu comme ça qu'il se rémunère, entre autres. C'est un des moyens, effectivement, pour les entreprises qui veulent avoir un repository mais qui ne veulent pas exposer publiquement leurs images, s'ils veulent les avoir de manière privée mais stockées dans le hub, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ils payent quelque chose et leur repository est dit privé. Et on retourne sur le slide deck. Donc, cool. En résumé, Pascal, et après, on va attaquer une petite démonstration pour illustrer tout ça, qu'on a déjà un petit peu illustré. Nous avons donc un moteur Docker qui s'appuie en sous-jacent sur des mécanismes intrinsèques à Linux et au kernel de Linux. On est sur un modèle client-serveur avec une ligne de commande Docker, un client Docker qui va se connecter en REST à ce Docker Engine pour faire des commandes qui donc vont passer en REST, en HTTP ou HTTPS si on passe par de l'Internet, auquel cas il y aura une authentification par certificat. La Docker Registry, c'est l'endroit où on va stocker les images. Il y en a deux formes qui existent. Il y a le Docker Hub, qui est la registry publique de Docker, celle qu'on vient juste de vous montrer. Et on a ce qu'on appelle les TDR, les Trusted Docker Registry, qui sont des registries privées. Et qu'on ne peut pas forcément créer chez Docker, mais qu'on peut créer au sein de son infrastructure en interne, ou qu'on peut créer chez un autre fournisseur, sur Azure, par exemple, ou ailleurs.
Tout à fait.
Docker Compose et Docker Swarm sont juste nécessaires dès qu'on dépasse l'étape de la découverte et du test de Docker. Donc tu peux nous en dire deux mots.
Oui, alors deux mots de ce que j'en ai compris aujourd'hui. Hein. Oui. Donc Docker Compose permet de construire des applications multi-containers.
Ce qui est logique parce qu'on a parlé de containers égale microservices. Donc si on a plein de différents microservices qui doivent parler entre eux, on est probablement sur du multi-container.
Voilà, on peut par exemple avoir un container base de données, un container front-end web, et puis un container d'objets de métier au milieu, ce genre de choses-là. Donc Docker Compose. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est multiplateforme. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui, hein? C'est parce que Microsoft se met également à faire du container et donc on peut faire avec Compose des applications multi-containers, multi-plateformes, avec des containers Windows, des containers Linux. Et Docker Swarm, c'est un composant qui permet de monter des clusters de machines exécutant des containers. Donc faire du scale-out, de la scalabilité, du passage à l'échelle, mais en utilisant plusieurs hôtes
physique,
de containers, physiques voilà. Ou machines virtuelles.
Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, comme ça, répartir des containers sur plusieurs moteurs de containers. Et c'est de l'orchestration, hein, Swarm, c'est basiquement de l'orchestration. Il existe d'autres solutions d'orchestration de containers, Kubernetes, Mesos.
Avec lesquels on a également des partenariats.
Exactement, oui. Donc il y a pas mal d'outils derrière. Docker Swarm, on va dire pour l'instant, c'est l'outil officiel de Docker. Et puis, bon, Docker, la société évolue pas mal, donc il y a pas mal de choses qui vont encore arriver, mais Swarm est pas mal utilisé, effectivement, dès qu'on va vouloir faire de la montée en charge, de la prod, et aller au-delà de simplement exécuter tous les conteneurs sur une même machine physique, un même host. Donc c'est on va dire, un système de haute disponibilité, de scalabilité pour les conteneurs.
Donc si vous allez voir également le site de Docker, vous trouverez d'autres composants complémentaires, dont un très récent qui s'appelle Docker Machine, et qui est intéressant notamment quand on veut tester un petit peu Docker sur différents environnements. Docker Machine permet de monter très simplement des hôtes pour exécuter des containers Docker.
D'accord.
Donc par exemple, si vous l'utilisez sur un Mac, ça va automatiquement faire ce dont je parlais tout à l'heure, donc la machine virtuelle Linux, etc., tout ce qui va bien.
Alors, là on pourrait se dire, mais dis donc, il y a Pascal et Stanislas, depuis tout à l'heure, ils me parlent de Docker et de Linux. Par hasard, est-ce que je ne serais pas trompé, je ne serais pas plutôt sur la Linux Virtual Academy? Non, si on parle de ça, c'est qu'en fait, Microsoft et Docker travaillent ensemble depuis déjà de longs mois, on est à plus d'un an déjà. Effectivement, il y a pas mal de choses qu'on a fait en collaboration. Donc, je ne vais pas tous les lister, mais sachez que du coup, on est intervenu dans la conférence, dans la DockerCon, la conférence Docker qui a eu lieu cette année, pour montrer notamment les containers Windows, et qu'on fait plein de choses autour de Docker, parce que Docker est utilisable effectivement avec Azure et utilisable avec pas mal d'outils de chez nous. Donc première chose, effectivement dans Azure, ce qu'on expose, c'est de la ressource qu'on va revendre à nos clients, sous différentes formes, ressources brutes, stockage, CPU ou réseau, ressources un peu plus packagées, sur des plateformes de services où on a des choses déjà un peu packagées qu'on utilise pour mettre des applications dessus. Donc Docker dans le marketplace d'Azure va vous permettre, on va le voir tout à l'heure en démonstration, on va pouvoir rechercher des choses et bon, je vais directement aller sur mon navigateur, ce sera peut-être plus explicite. Donc je suis ici dans le nouveau portail d'Azure ou le futur utilisable. Ma session expirée, je vais la recharger. C'est la preview effectivement. Et donc, dans ce moteur, dans ce portail, ici, on a quelque chose qui s'appelle le Marketplace. Donc, la place de marché, c'est là où on a toutes les applications. Si vous faites une recherche ici sur Docker, vous allez voir apparaître pas mal de petites choses. Donc, première chose, c'est la Docker Trusted Registry. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure qu'une entreprise qui a envie d'utiliser du Docker, mais qui n'a pas envie d'exposer les images qu'elle crée avec ses applicatifs internes, etc., en public auprès de Docker, peut soit payer effectivement un abonnement Docker pour être sur le hub de Docker, mais dans un espace privé, soit peut se créer son propre environnement, son propre repository, sa propre registry d'entreprise. Donc c'est une registrie d'entreprise, une TDR, donc Trusted Registry, Docker Trusted Registry. Et donc là, en fait, simplement, ici, donc celui qui fournit cette solution, bah, c'est Docker. Ce n'est pas nous qui le faisons, hein, c'est Docker qui le fournit et qui l'expose dans notre marketplace. Et ici, effectivement, ça vous permet d'avoir une TDR chez vous et de mettre avec une console d'administration pour gérer des choses classiques qu'on a en entreprise, hein, les droits d'accès à ces fameuses images, configurer le stockage, les certificats de sécurité, voir les audits, les métriques, etc. Et puis des boutons, enfin des fonctionnalités pour faire les mises à jour de tout ça. Donc il y a tout le détail ici, et puis on vous explique comment ça fonctionne. Donc là, sur ce modèle de fonctionnalité, là on est sur de l'abonnement annuel. Donc on voit avec Docker et puis on instancie. Donc là, simplement en cliquant Create, ça va me créer toute la mécanique sous-jacente, la plomberie sous-jacente, pour avoir directement une registrie d'entreprise utilisable que par l'entreprise, qui n'a rien à voir avec les choses publiques.
Le tout dans une VM Azure.
Je ne sais plus si c'est une VM Azure ou s'il y en a plusieurs.
Ou si c'est un ensemble de
VM. À vérifier. Oui. Ensuite, ici, on voit une chose qui s'appelle Docker, où le publisher, en fait, l'éditeur qui a publié cette chose, c'est Microsoft. Ah, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire ?
Mais qu'est-ce qu'on a fait ?
Eh bien, ça permet, en fait, Docker, ça permet de créer un host Docker dans Azure. Donc, en gros, ça va instancier une machine virtuelle dans Azure. Alors, en fait, pour être exact, c'est une extension qui va venir sur une machine Linux ajouter les composants Docker nécessaires pour avoir le moteur Docker. Donc, à la place de faire un apt-get avec derrière la commande qui va bien, c'est Docker, peut-être d'ailleurs. Get Docker pour récupérer le moteur.
Je sais get plus. Install docker.io,
voilà, oui. Au lieu de faire ça, eh bien, on a une extension qui automatiquement peut être associée à une machine virtuelle Linux dans Azure et qui du coup va faire l'opération pour vous. C'est relativement simple. Et vous voyez que chaque fois qu'il y a une troc, il y a des petites docs qui sont données derrière. Donc là, typiquement, comme on va avoir des machines virtuelles avec des moteurs Docker qui vont tourner dans un cloud public et qu'on va probablement y accéder depuis la ligne de commande qui est sur notre ordinateur. Dans ce cas-là, la connexion sera une connexion qui sera en HTTPS. Et là, on vous donne également les guides pour le configurer par la suite. Et puis, on a d'autres choses. Par exemple, ici, là, on a dans le market, on a du Docker on Ubuntu Server. Et là, on voit que l'éditeur qui a publié cette ressource dans Azure, c'est Canonical, donc les créateurs, la société derrière Ubuntu et oui. Microsoft. Donc, quand on va prendre cette option est assez intéressante, parce que pour commencer, c'est plutôt bien. Eh bien, ça vous permet directement de déployer en fait une VM Ubuntu basée sur du 15.04. Et en plus, il y a l'extension qui permet, donc la VM extension dont je viens de parler juste au préalable, qui elle permet d'avoir le moteur Docker. Donc si je veux rapidement en fait tester Docker, je prends cette option-là, ça va me déployer la VM Linux, plus l'extension de Microsoft pour installer Docker. Et directement, en fait, j'ai un serveur Docker qui est prêt à l'usage.
Et la 15.04, si je ne m'abuse, c'est la LTS ou...
Je ne m'en rappelle plus.
C'était la 14.04, je ne sais plus.
Et puis en dessous, dans les publiers ici, on a également des images. Donc des images de conteneurs Docker prêts à l'emploi. Donc là, on a une image, une couche qui est en fait un WordPress plus un MySQL. On a d'autres, c'est Ghost, d'accord. Jenkins, etc. Donc vous voyez qu'en fait, on a plusieurs choses qui sont disponibles dans Azure aujourd'hui pour Docker. Soit on a simplement la capacité de rajouter à une VM Linux le moteur Docker. Soit on a la TDR, la
DTR.
La DTR, j'ai un problème de dyslexie. La DTR qui est la Docker Registry privée. Exactement,
ouais.
Trusted Registry. Soit on a le package complet, VM plus moteur Ubuntu plus l'extension Microsoft. Soit on a directement des applications, des containers prêts à être distribués.
Donc quand on choisit un de ces containers-là, en fait, on a l'ensemble. On a une VM qui exécute le démon Docker et un container tout préinstallé dessus.
Exactement. Là, tu as dit « Deployment of this item result in the following offering installed ». Donc ça va, si je clique ici sur, si je veux un WordPress et un MySQL, eh bien je vais donc cliquer ici sur « Create ». Et là, ça va me créer automatiquement un Ubuntu Server 15.04 qui est donc fourni par Canonical, c'est l'Ubuntu. L'extension du Docker et du moteur Docker par Microsoft, plus le container WordPress qui provient du Docker Hub officiel, d'accord, plus le container MySQL qui provient du Docker Hub. Donc tout est packagé, on peut le faire
tout
ensemble.
C'est packagé, c'est fourni par Docker, donc c'est officiel.
C'est fourni que par des officiels, c'est-à-dire Microsoft, Canonical et Docker. Donc là, par exemple, il va me demander le mot de passe de mon serveur MySQL, le nom de ma machine, donc on peut l'appeler VM Doc MVA, mon nom d'utilisateur, si je veux faire une authentification avec du mot de passe, ou bon là c'est pour une démonstration donc c'est pas très grave, sur quel abonnement Azure je souhaite faire cette opération, quel nom du ressource group, hop, on va agrandir. Je vais sélectionner un ressource groupe. On va l'appeler Docker Stan 2. Et l'endroit, le data center Azure dans lequel on va instancier tout ça. Voilà. Donc là, il va juste me dire, ah, pour ta machine, ta machine qui va avoir le moteur Docker, tu veux quelle taille de machine? Bon, là, c'est juste pour la démonstration, on va prendre le moins cher, la toute petite machine, mais on pourrait se dire, bah, si après, j'ai par exemple des petites machines pour mes développeurs et pour ma production, je prends des grosses machines. C'est un exemple. Dernière chose ici, là, il me dit, le moteur Docker, par défaut, ici, est désactivé, surtout ce qui est HTTPS. Je pourrais venir l'activer pour autoriser à distance. Dans un premier temps, je peux simplement faire un SSH sur la machine Linux et utiliser la ligne de commande Docker, le Docker client, localement, entre guillemets, sur le serveur Docker. Le stockage, ici, là encore, stockage standard premium, ça, c'est de la chose d'Azure, et le réseau avec les adresses IP, etc. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est après de la sauce. J'ai tout le récapitulatif ici, tout qui va être créé. Je n'ai plus qu'à envoyer, entre guillemets, la sauce, et c'est parti. Voilà, c'est ni plus ni moins compliqué que ça. Donc, ben, je vous les ai montrés. Donc, effectivement, dans le marketplace, on a une zone, une catégorie qui s'appelle Container Apps. Container Apps égale application provenant du Docker Hub. On le voit très bien ici, Popular Official Repository on Docker Hub. Donc là, on a une vision un peu différente de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'interface Docker Hub. Là, c'est vu au travers de l'interface d'administration d'Azure, avec quelques applications qui sont déjà packagées. On voit le serveur web Jenkins, par exemple, ou autre. Tu veux nous faire une petite démonstration maintenant en live, au-delà de ce que j'ai montré, pour réellement faire un petit peu les lignes de commande Docker?
Sous Linux?
Oui, sous Linux.
Donc, c'est pas exactement sur Azure, mais c'est tout comme. Hop.
Voilà, on l'a dit tout à l'heure, l'intérêt c'est qu'on est portable. Donc là je vous ai montré sur Azure, mais on peut instancier une VM dans Hyper-V ou sur un VMware ou autre.
Donc, tout à l'heure on a parlé du Hub, du Docker Hub. Donc déjà, la ligne de commande Docker qu'on utilise, quand on lance Docker sans paramètres, on a l'ensemble des paramètres possibles qui sont affichés avec les options, etc. Donc on voit la fameuse quarantaine de commandes qui sont affichées ici. Par exemple, on a les commandes pull, push, pour récupérer des images, envoyer des images vers le registry, etc. etc. Si je veux une opération assez courante, alors je vais essayer de me remettre en haut, je vais redimensionner un petit peu, ou alors me mettre en plein écran, ça va être plus simple. Voilà. Si je veux, par exemple, chercher dans le hub, donc Docker Search, toutes les images avec dedans écrit Microsoft, par exemple, je vais récupérer directement l'ensemble des images de containers dans le Docker Hub fourni par Microsoft ou qui parlent de Microsoft. Donc celles qui commencent par Microsoft slash sont officielles et viennent de Microsoft. D'accord. Par exemple, la première, c'est la ASP.NET. C'est la première qu'on a annoncée à l'époque où on a commencé notre partenariat avec Docker. On a publié dans le Hub une image de ASP.NET sur Linux pour développer des applications ASP.NET sur Linux. Donc on voit qu'on a 233 étoiles, donc ce qui est plutôt pas mal. Mono également, qui est un moteur .NET pour Linux. Et puis on a Microsoft Azure CLI, celle-là elle m'intéresse pas mal, celle-là, Microsoft slash Azure CLI. C'est quoi Azure CLI, hein? C'est la ligne de commande pour manipuler Azure depuis Linux. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, on en a déjà parlé, ça utilise Node.js. Donc quand on veut l'installer, il faut installer Node.js, il faut savoir comment on fait, il faut installer je ne sais plus quel composant pour installer ensuite l'Azure CLI.
Là l'idée effectivement c'est que du coup on l'a mis en container, ce qui fait que ce container là référence en dessous ce dont il a besoin, les images dont il a besoin. Donc il va aller effectivement chercher le Node.js, il va aller chercher l'OS, il va aller chercher.
Donc le jour où j'ai voulu utiliser l'Azure CLI, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Docker. Pull. Je n'étais même pas obligé de faire pull, je pouvais faire run directement avec l'option interactif et puis le T pour le TTY pour avoir une connexion à mon shell. Et puis le nom du container Microsoft slash Azure CLI.
Donc quand tu lances un run et qu'il n'est pas déjà localement sur ta machine, naturellement il va faire le pull.
Okay. Il va faire le pull depuis le web. Donc c'est super pratique. C'est absolument priceless, comme on dit dans les publicités.
Et j'ai envie de dire what else quand j'ai
what else. Là, il se trouve que j'ai déjà fait le pull. Donc quand je fais ça, j'ai démarré un nouveau container, donc j'ai créé un nouvel container, une nouvelle instance à partir de cette image, parce que je l'avais déjà dans mes images locales, et il a démarré. Tu remarques que ça a pris même pas une microseconde, ça a juste pris le temps de l'afficher.
Parce qu'en fait, ça n'a démarré finalement que le delta. Si on parle de virtualisation d'OS, ton OS tourne déjà, là tu es déjà sur du Linux, tu as déjà toutes tes choses.
Oui.
Et là, en fait, il ne fait que démarrer le delta par rapport à ce dont il a besoin.
Exactement. Ça m'a fait un container, ça m'a virtualisé quelques trucs, et puis paf. Ça...
Alors, du coup, tu peux nous lister les images que tu as sur, sur ta machine locale.
Donc, je quitte le container. Il faut bien expliquer ce que je fais, parce que des fois, ce n'est pas très visuel, une ligne de commande. Là, je suis encore dans le container. Si je fais, par exemple, Azure, on va remarquer que j'ai la commande Azure.
D'accord. Donc, ça, on voit que tu es dans le container parce que tu as un ID qui est présent devant.
Exactement. Je suis root at... l'ID de mon container qui est le nom de ma machine, de mon container.
Donc si tu sors de container, tu vas peut-être nous faire deux choses, nous lister les images qui sont disponibles sur ton poste.
Donc pour lister les images, Docker Images,
c'est important.
Donc là, j'ai l'ensemble des images dont j'ai fait un pool ou que j'ai créé en local.
D'accord. Là, on voit les intéressants, c'est les numéros de version des images. On a également la notion de latest, qui veut dire la dernière image en date. On a les identifiants d'images, quand elles ont été créées, la taille qu'elles ont. Donc on voit effectivement ici les différentes tailles des fameuses couches dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire pour faire tourner effectivement ton Azure CLI,
tu as Azure CLI doit faire, 494 mégas.
Bon, c'est une image qui est faite par Microsoft, elle est un petit peu plus épaisse que les autres.
C'est un Debian. Il y a une image Debian. Comme je suis sur un Ubuntu, il y a plus de différences.
Ah bah oui, il y a plus de différences, forcément.
J'ai une machine physique Ubuntu, il y a une différence avec Debian, une légère différence.
Et Node.js à l'intérieur.
Plus Node.js et Azure CLI. Alors si on veut fouiller un petit peu les informations concernant cette image-là, je peux faire également Azure. C'est la déformation professionnelle. Docker, History, Microsoft, /Azure/Azure CLI. On peut constater comment a été construite cette image. Et en gros, les commandes qu'on a dans la colonne Created by, donc malheureusement, elle est tronquée pour l'affichage, on n'a pas l'ensemble des commandes, c'est ce qu'on trouverait dans les Dockerfiles qui ont servi à générer ces couches intermédiaires. Donc notamment, là, on voit qu'il y a eu des commandes apt-get.
Okay, les mises à jour. Hein.
Pour faire des installations de certains modules, notamment Node.js et compagnie, quoi, et Azure CLI.
D'accord. Et si tu fais un Docker PS-A, tu devrais pouvoir nous lister l'ensemble des containers, non plus des images, mais des containers qui sont instanciés dans ta machine.
Exactement. Pourquoi le -A? Parce que si je fais PS tout court, je vois que les containers qui sont en train de s'exécuter, j'en ai aucun.
Donc, on peut instancier un container, mais le garder arrêté.
Exactement. Et par défaut, quand on quitte le shell qu'on a ouvert dedans, ça l'arrête en même temps. -A. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mal joué avec le Docker sur cette machine-là. Je ne savais pas au début que quand on quittait un container, il restait là, dans un état arrêté, que je pouvais y revenir dessus. Et donc à chaque fois, je le relançais, etc. Donc, bon. Donc on voit par exemple que celui que j'ai lancé il y a 3 minutes, il est là, il a ce numéro ici, Azure CLI. Par contre, celui-ci, si je le relance, je n'ai pas encore configuré mon compte Azure. Par contre, ce matin, donc il y a 2 heures, ici 2 hours ago, je l'ai lancé. J'ai lancé un container basé sur cette image Azure CLI et je l'ai configuré avec mon compte Azure. Donc je peux le récupérer, je peux m'y reconnecter, le relancer. Donc je copie dans mon clipboard son identifiant ici que j'ai sélectionné. Et puis je vais faire Docker start -i pour m'y connecter en interactif. Et puis le numéro du container que j'ai sélectionné. Et là, automatiquement, j'ai redémarré, j'ai réveillé le container que j'ai utilisé ce matin et que j'ai configuré avec mon Azure. Et je peux te démontrer que mon Azure est configuré en faisant Azure Account List. J'ai bien mes différents abonnements Azure qui sont dans mon compte, parce que comment j'ai fait pour le configurer? J'ai récupéré un fichier Publish Settings d'Azure et puis je l'ai importé dans ma configuration d'Azure CLI. Et puis, je peux faire Azure VM List pour lister les machines virtuelles que j'ai dans mon Azure YAS et leurs différents états.
Alors là, si je résumais, c'est là où on va faire de l'inception à nouveau. Ta machine Linux ici, Docker, tourne sur un Hyper-V. C'est pas ça?
Oui.
Dans cette machine Linux, tu fais tourner un moteur Docker qui instancie un container.
Oui.
Ce container contient un outil pour te connecter à Azure et lister les machines virtuelles qui tournent dans Azure.
Oui. Ce container, en plus, émule Debian.
Alors qu'il est sur une base Ubuntu, c'est ça ?
Node.js.
Node.js.
Et Azure Cli, alors qu'il est sur une base, effectivement, de mes VM Ubuntu. Oui, mais c'est... Mais là où c'est magique, c'est que, tu as vu, il a fallu une ligne pour installer, récupérer, installer, configurer et lancer Azure Cli. Alors que d'habitude, bon, c'est quand même pas aussi simple que ça.
Et c'est vrai que c'est particulièrement génial parce qu'aujourd'hui, les containers sont massivement utilisés, sont principalement, majoritairement, très très majoritairement utilisés dans le monde Linux. Mais effectivement, quand on a une couche, par exemple LAMP, où on a effectivement du Linux, de l'Apache, du MySQL, du PHP, et ben, avec les technos de containers, c'est super simple en fait pour des développeurs de tester que leur application va bien marcher avec la prochaine version de PHP ou la prochaine version de Linux ou la prochaine version de Apache. Et en fait, simplement parce que on réinstancie une couche, un millefeuille avec dedans en remplaçant la version PHP 4 par la version 5, etc. Quoi.
Donc, je peux te montrer également que là, dans le container, je suis bien sur une Debian en faisant LSB release. Si je fais uname -1, j'ai bien le numéro de noyau ici qui est 319.026, c'est générique, Ubuntu. Alors que je suis sur une Debian dans le container, mais mon noyau, c'est un noyau qui vient de mon host Ubuntu, en fait.
D'accord.
D'accord, on voit la virtualisation de l'OS ici.
Et merci Pascal, on va re-switcher sur les slides, sauf si tu as une autre commande à nous montrer.
Bon, je pense qu'on a assez vu de Linux pour aujourd'hui.
On va vous faire la même chose avec du Windows après. Normalement. Donc, pour continuer cette histoire de partenariat entre Microsoft et Docker, qu'est-ce qu'on fait concrètement ensemble ? Donc, on a étendu les API, il y a eu une extension des API et des outils Docker pour supporter les conteneurs Windows. Conteneurs Windows qu'on verra dans la prochaine partie, mais toujours dans ce cours MVA. On a également désormais sur Windows le moteur Docker. Donc, on le disait tout à l'heure, le moteur Docker parle au serveur, au host engine, au moteur Docker, qui est le serveur. Jusqu'ici, c'était du Linux qui parlait avec du Linux, etc. Parce que c'était... Donc désormais, cette ligne de commande Docker que tu as utilisée il y a deux secondes en environnement Linux existe désormais également. On peut l'installer sur du Windows. Et à terme, ce que Docker a prévu de faire, c'est de fournir un client générique qui soit unique et qui pourra manipuler les conteneurs Linux et les conteneurs Windows. Que cette ligne de commande Docker soit exécutée sur une machine Linux ou sur une machine Windows. Donc c'est plutôt cool ça. On a également l'extension Docker pour les VM Linux sur Azure, ça je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'interface du portail Azure effectivement et dans la marketplace. On supporte également, on a le support de Docker Compose et Docker Swarm sur Azure, donc pour utiliser ces technos, pas de souci. Pour les développeurs qui utilisent Visual Studio, désormais on a un outil dans Visual Studio pour Docker, une extension qui permet directement aux développeurs en fait, de compiler et publier son application sous la forme d'un container de manière complètement automatisée. Donc l'extension était en bêta jusqu'au mois d'août 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et avec la sortie de Visual Studio 2015, on a eu l'extension qui est arrivée en version 1.0 et qui permet donc du coup directement depuis Visual Studio de committer son image et de démarrer, d'instancier un container.
Dans la pratique, ça génère également des Dockerfiles de façon automatique.
Voilà.
Parce que c'est un petit peu fastidieux.
Oui, de le faire à la main. Donc, vous voyez, on simplifie à la fois les boulots des IT et les boulots des devs en fait, avec Docker. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde en parle et tout le monde est excité par Docker. Les containers Docker dans le marketplace d'Azure, je vous l'ai montré tout à l'heure. Effectivement, on a directement maintenant des applications packagées sous la forme de conteneurs qui sont disponibles dans le marketplace d'Azure. Et quand on va choisir de créer, effectivement, dans Azure, d'utiliser une de ces applications, ça vous crée la stack complète, on l'a vu tout à l'heure, ça vous démarre la VM Ubuntu, l'extension Docker et les conteneurs qui sont nécessaires pour l'application, qui sont tirés directement depuis le hub Docker. Voilà, on a terminé la première partie d'introduction aux conteneurs et les conteneurs Linux et Docker. Et dans la prochaine partie, eh bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en termes de nouveautés du côté de Windows.